Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nainar Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Dans cet essai de sociologie des organisations, Christian Morel étudie un phénomène déroutant mais fréquent des individus ou des collectifs peuvent agir durablement à rebours du but qu'ils poursuivent. Une décision absurde ne désigne donc pas une simple erreur, un résultat médiocre ou un choix discutable après coup. Elle correspond à une action radicalement contraire à la finalité visée et maintenue malgré ses effets. Publié initialement au début des années 2000 et réédité en folio essai. Ce premier volume examine les mécanismes cognitifs, collectifs et liés aux finalités qui rendent ces erreurs possibles. Morel appuie son analyse sur des accidents techniques, notamment le cas Challenger, mais aussi sur des situations ordinaires de management et de coordination. Son objectif est moins de désigner des responsables irrationnels que de comprendre comment des personnes compétentes, insérées dans des organisations apparemment normales, peuvent contribuer à des enchaînements manifestement contre-productifs. Le livre propose ainsi une grille de lecture exigeante des défaillances de décision et de la perte de sens dans l'action collective. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, la décision absurde se distingue nettement du simple mauvais choix. Le point de départ de Morel est une définition volontairement restrictive. Il ne suffit pas qu'une décision échoue, soit coûteuse ou produise des effets indésirables pour être absurde. Dans les activités complexes, une décision raisonnable peut mener à un mauvais résultat en raison de circonstances imprévisibles, de données insuffisantes ou de risques assumés. La décision absurde apparaît lorsque le comportement adopté s'oppose de manière nette et persistante à l'objectif que les acteurs eux-mêmes reconnaissent. Cette précision évite les jugements faciles formulés après coup. Elle oblige à reconstituer la rationalité de référence des personnes concernées, leurs informations, leurs contraintes et leurs interactions. Le paradoxe devient alors plus instructif. Les acteurs ne cherchent généralement pas le désastre, mais leur raisonnement et leur pratique produisent un chemin qui y conduit. Le cas du lancement de Challenger illustre cette difficulté, car des alertes sur la vulnérabilité des joints à basse température existaient avant le départ. Morel analyse donc des processus plutôt que des fautes individuelles isolées. Cette approche rend compte de situations où chacun accomplit une tâche apparemment défendable, tandis que le résultat global devient contraire à la sécurité, à la qualité ou à la finalité annoncée. Elle permet aussi de distinguer une erreur corrigée rapidement de celle qui se consolide et devient durable. Deuxièmement, les erreurs de compréhension sont particulièrement dangereuses car elles inspirent la certitude. Morel distingue plusieurs formes élémentaires d'erreurs, erreurs d'attention. Transgression de règles, lacunes de connaissances et erreurs de compréhension ou de représentation. Cette dernière occupe une place centrale dans son analyse. Une inattention peut être repérée, une règle violée peut être rappelée et une compétence manquante peut être acquise. En revanche, une représentation erronée du problème est plus difficile à corriger parce que celui qui se trompe peut être pleinement convaincu de bien comprendre la situation. La certitude intellectuelle réduit alors la recherche de signaux contraires et rend les alertes externes moins audibles. Le livre montre ainsi que la compétence technique ne protège pas automatiquement de l'erreur radicale. Elle peut même, dans certaines configurations, renforcer la confiance dans un cadre de raisonnement inadéquat. Morel ne réduit pas ce phénomène à une psychologie individuelle. Les représentations se stabilisent aussi dans les échanges professionnels, dans les routines et dans la manière de transmettre une information. Enfin, une organisation risque par exemple de traiter ces messages comme si leur destinataire les recevait, les comprenait et les retenait automatiquement. Or, la communication ne garantit ni une compréhension commune ni une action adaptée. Examinez les hypothèses implicites. Faire expliciter les désaccords et vérifier ce qui est effectivement compris constituent donc des enjeux décisifs pour prévenir les raisonnements collectivement aveugles. Troisièmement, managers, experts et candides forment une grille pour lire les interactions de décision, pour dépasser une vision abstraite du groupe. Morel décrit trois figures récurrentes, le décisionnaire ou manager, expert et candide. Ces rôles ne correspondent pas nécessairement à des personnes fixes. Ils renvoient à des positions dans une situation donnée. Le manager arbitre ou oriente, expert détient une compétence spécialisée. Et le candide ne possède pas le même savoir, mais peut poser des questions simples ou exprimer une perplexité utile. Chacun peut produire une information, demander, suivre, rester absent ou opposer une objection. Cette combinaison de rôles et d'actions aide à comprendre pourquoi une alerte pertinente ne modifie pas toujours une décision. Un expert peut ne pas traduire son inquiétude dans un langage utilisable par le décideur. Un manager peut prendre le silence pour un assentiment. Un candide peut se taire parce qu'il ne se sent pas légitime. La division du travail renforce ce risque, les acteurs se concentrent sur leur domaine et hésitent à intervenir hors de leur périmètre. Il peut alors manquer une vue d'ensemble, sans que personne ne néglige explicitement son travail. La grille de Morel ne hiérarchise pas simplement les responsabilités. Elle met en évidence les conditions concrètes de la coordination qui formule le problème, qui demande une clarification, qui vérifie la décision et qui est autorisée à contester. Elle éclaire ainsi les silences organisationnels aussi bien que les conflits visibles. Quatrièmement, les métamodèles mous et durs expliquent deux manières de persévérer dans l'erreur. Morel propose deux métamodèles pour expliquer la construction et le maintien des erreurs collectives. Dans le métamodèle mou, la décision absurde se développe dans une forme de consensus. Les acteurs valident, parfois faiblement, une orientation sans véritable confrontation. Le silence, la confiance excessive dans les procédures. La diffusion des responsabilités ou le désir de ne pas perturber une réunion peuvent suffire à faire tenir une décision pourtant fragile. Personne ne porte seul toute la conviction, mais les validations successives créent une apparence de solidité. Dans le métamodèle dur, au contraire, l'erreur se poursuit au sein de conflits marqués. Des oppositions existent, des signaux sont formulés, mais les rapports de force, les incompréhensions entre groupes ou les mécanismes de défense rendent ces objections inopérantes. L'erreur ne résulte donc pas toujours de la pensée de groupe au sens d'une harmonie trompeuse, elle peut aussi prospérer malgré le désaccord. Cette distinction est utile parce que les remèdes ne sont pas identiques. Face à un consensus mou, il faut rendre possible la contradiction et vérifier que le silence ne masque pas des réserves. Face à un conflit dur, il faut améliorer la traduction des arguments, clarifier les responsabilités et organiser un arbitrage relié au but commun. Dans les deux cas, le problème est moins la présence ou absence de débat que leur capacité réelle à modifier une trajectoire dangereuse. En dernier lieu, la perte de finalité transforme parfois les moyens en objectifs autonomes. Une part originale du livre réside dans son analyse téléologique. C'est-à-dire dans son examen des fins poursuivies. Morel montre que certaines décisions deviennent absurdes non seulement parce que les acteurs interprètent mal les faits ou coopèrent mal, mais parce que le but de l'action se brouille. Des objectifs incertains, une solution traitée comme une fin en soi. Une absence de contrôle de conformité avec la finalité initiale ou la réaffectation vague de la solution à une valeur générale peuvent entretenir cette dérive. Un outil, une règle, une réunion ou un dispositif de sécurité peut alors survivre parce qu'il existe, non parce qu'il sert encore le problème auquel il devait répondre. Le diagnostic dépasse ainsi la question classique des biais cognitifs. Il porte sur le sens de l'action, à quel objectif concret une procédure contribue-t-elle et comment cette contribution est-elle vérifiée. Cette interrogation est particulièrement pertinente dans les organisations où les instruments de gestion s'accumulent et où chaque fonction dispose de ses propres critères. Morel souligne aussi que l'indétermination ne mène pas automatiquement à l'absurde. Elle peut ouvrir un espace pour innover, car agir implique souvent de décider sans certitude complète. L'enjeu consiste donc à distinguer une expérimentation consciente de ses incertitudes et une persistance aveugle. Le maintien régulier du lien entre moyens, effets observés et finalités constitue la condition d'une décision qui reste intelligible et révisable. En conclusion, les décisions absurdes intéresseront en priorité les managers, spécialistes de la sécurité, professionnels des organisations complexes, responsables syndicaux, étudiants en sociologie et lecteurs attentifs aux échecs collectifs. Il offre également une ressource utile à toute personne qui souhaite comprendre pourquoi des réunions, procédures ou outils de gestion continuent parfois de produire des effets contraires à leurs promesses. Son apport pratique ne réside pas dans une méthode simplifiée de décision parfaite. Il fournit plutôt des questions de vigilance: quel est le but effectif? Quelles représentations du problème sont tenues pour évidentes? Quelles alertes restent sans effet et quel rôle ne trouve pas de place dans la discussion? Sur le plan intellectuel, le livre se distingue des ouvrages centrés uniquement sur les biais individuels. Morel articule erreurs de raisonnement, division du travail, rapport entre experts et décideurs, dynamique de consensus ou de conflit et effacement progressif des finalités. Cette perspective sociologique explique pourquoi des personnes ni stupides ni malveillantes peuvent persister dans des voies manifestement nocives. Les études de cas donnent de la matière à cette construction théorique et permettent de relier les catastrophes reconnues au dysfonctionnement ordinaire du travail collectif. Certains lecteurs pourront trouver la démonstration dense ou répétitive, notamment dans ses retours sur les mêmes mécanismes. Cette lenteur correspond toutefois à une ambition analytique, montrer que les erreurs radicales ne sont pas des anomalies incompréhensibles, mais des processus structurés. Le livre demeure donc particulièrement précieux pour apprendre à examiner une décision avant que sa logique interne devienne difficile à contester. Si vous souhaitez soutenir Christiane Morel, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.